C'est l'une des chaînes de télévision les plus récentes et également les plus innovantes en France. Vice TV France lance 3 nouveaux programmes, dont un dès ce soir. Les 2 autres vont arriver dans le mois qui vient et vous allez les découvrir en exclusivité ce matin dans Culture Média. Bonjour Romain Marcilly.
Bonjour Philippe Bandel.
Vous êtes le directeur général de Vice TV France. C'est vous qui allez nous présenter ces 3 émissions. Voici la première. On entend le générique de Voyou, série documentaire de 4 épisodes qui démarre ce soir. Le premier épisode sera à 22h, épisode qui avait déjà été diffusé en avant-première fin décembre. Qu'est-ce que ça raconte, Voyou ?
Voyou est un programme original donc, qui a été créé cette année, qui raconte les parcours, comme le nom l'indique, de voyous, qui raconte leur parcours de vie, leur rencontre avec le crime lorsque ça a eu lieu, ou avec le délit, selon les cas. Avec plusieurs profils très intéressants, François Troquins, Mouvement Souris, Tony Langui, donc des profils assez...
Il faut dire qu'ils sont, si vous donnez que leur nom, on comprend pas.
C'est des profils très connus dans le métier, donc qui se sont distingués par diverses œuvres variées, on va dire, qui vont du braquage aux différents trafics, au grand banditisme. Donc ce sont des grandes figures assez connues dans le milieu, mais qui racontent de manière très pédagogique et très personnelle et très intime à la fois leur parcours d'avant, leur vie d'avant, mais surtout leur vie d'après. Parce qu'ils se sont reconvertis. François Troquins, aujourd'hui, c'est un réalisateur. Ouais. Donc c'est un réalisateur très talentueux, et c'est ça qui est intéressant dans ses parcours.
C'est une série qui est incarnée par un jeune chauffeur de VTC, il s'appelle Saïd Ouli, et il est passionné par ses anciens voyous. Et lui, il dit avoir flirté avec la délinquance, et j'aime bien cette phrase, il dit « je me suis repris de juste voilà.
Oui.
Par rapport aux opinions, on reprend de justice. Alors, c'est un sujet qui a souvent été traité, évidemment, les voyous. Qu'est-ce qu'on voit dans cette émission ? Sur Vice TV, c'est souvent des contenus très, très différents avec un pas de côté. Qu'est-ce qu'on voit chez vous qu'on ne voit pas ailleurs ?
Alors, je pense que chez nous, on essaye de vraiment, d'avant tout, mettre en avant l'authenticité, c'est-à-dire des témoignages très bruts, avec toujours une incarnation qui arrive à tisser un lien de confiance. Donc là, effectivement, Saïd Ouli arrive à tisser ce lien de confiance avec ses différents personnages, qui permet à des témoignages très intime, mais c'est un peu, je crois, le fil rouge de toute notre programmation. Ce qui est intéressant, c'est dans la manière dont ils racontent comment ils se sont réinventés. C'est vraiment ça la clé de l'émission par rapport au récit habituel de grand banditisme.
Alors ça se passe pas seulement dans un bureau. Saïd Ouli conduit ses invités sur des lieux qui ont compté dans leur vie. Exemple, dans le premier épisode, avec François Troquins dont vous parliez, ce braqueur belge qui est devenu cinéaste. Et ils vont là où Troquins a grandi, dans la campagne wallonne. Ils vont aussi dans ses bureaux, ceux de sa société de production, qui sont situés dans un bâtiment très étonnant. Pour qui connaît son parcours, tendez bien l'oreille.
Tu sais où t'es là ?
Ouais, j'ai une idée là.
T'as une idée un peu ?
Ouais, j'ai une... Ça pue le flic ici.
Ah, ça pue le flic parce qu'ils sont plus là.
Ouais.
Ah, pour la petite histoire, ma prod, elle se trouve dans un ancien bâtiment de la gendarmerie de belge. Et donc là, t'es dans un bureau de flic où il y a des mecs qui ont été interrogés, comme je suis là. Et en fait, t'es malheureusement du mauvais côté, quoi. J'espère que ça te déplaît pas trop parce que là, t'es plutôt dans la peau du flic et moi dans le mec qui se fait interroger.
Ah, tu veux pas qu'on change de place ?
Non, ça va, j'ai mis ma place.
T'es bien ?
Honnêtement, ouais. Tu vois, j'ai changé ma vie, mais j'ai pas changé de bord.
J'ai changé ma vie, mais j'ai pas changé de bord. Ça veut dire qu'il est toujours du côté des braqueurs, toujours du côté des voyous ?
Il faudrait lui poser la question, mais sentimentalement...
Comment vous l'entendez, vous ?
Sentimentalement, oui. Après, lorsque dans ces 2 épisodes qui lui sont consacrés, qui sont très très riches, il y a beaucoup de grandes anecdotes. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte comment il a été pris, il raconte sa cavale. Il raconte, et puis paradoxalement, le sentiment de liberté qu'il a pu avoir lorsqu'il était en cavale. Donc voilà, c'est assez particulier. Après, voilà, on se passe pas du tout sur un point de vue moral ni moralisateur. Ce qu'on essaie de comprendre, encore une fois, ce sont les parcours de vie.
Ouais.
Donc voilà, aucun jugement, juste d'écouter des anecdotes croustillantes avec ce vocabulaire des voyous un peu à la Audiard, souvent qu'on aime beaucoup.
En général, et puis il faut dire que quand une chaîne s'appelle Vice ou Vice, c'est difficile ensuite de faire la morale.
Oui, déjà, je pense que les médias, leur rôle, c'est pas de faire la morale.
Non, mais surtout vous.
Et surtout nous, après, le Vice, le nom, à l'origine, c'est Voice of Montréal qui perd son haut.
Oui, voilà, on a tous bien compris.
Aujourd'hui, le Vice, c'est ce qui aussi s'oppose à la pensée dominante. Et je crois que, comme l'a écrit tout au long de son œuvre Philippe Meret, dans l'empire du bien qui aujourd'hui nous écrase et écrase un peu tout, y compris parfois dans le paysage médiatique, c'est important d'avoir des voix un peu différentes.
Voilà, et puisque vous en parlez, Philippe Meret, c'est peu dire qu'il manque parfois.
Oui.
Les propos tenus à l'égard des policiers sont durs, on l'a entendu, on sent que Saïd Ouli et François Troquins ne les aiment pas, ne les portent pas dans leur cœur. Ça pue le flic même, disent-ils, on entend cette phrase. Est-ce que vous vous êtes demandé s'il fallait la garder ?
Là, c'est un extrait, bien sûr, mais si on prend l'ensemble de la série, il y a des propos qui sont très contradictoires et même parfois très bienveillants. On sait que les relations flics et voyous sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a entendu là, et parfois aussi empreintes de bienveillance et de respect, on le sait.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que parfois, en voyant la série, vous avez dit ça, il faut couper, ça, il faut couper. Est-ce que le patron que vous êtes doit valider une série aussi, entre guillemets, sulfureuse?
Non, parce que voilà, je pense que le propos est équilibré et on évite globalement, c'est un peu l'idée de la chaîne, on est dans l'authenticité, donc on coupe très très peu. Sauf bien sûr lorsque la loi l'oblige.
Voilà, il y a une scène assez incroyable dans le deuxième épisode, encore avec François Troquin, c'est la reconstitution d'un braquage dans la rue. Ça a l'air totalement réaliste, on croit que c'est un braquage. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez prévenu le voisinage?
Oui, tout avait été fait, bien sûr, dans les règles. C'était intéressant de voir comment un ancien braqueur, aujourd'hui en tant que réalisateur, filmait et organisait, tel un balai en fait, un braquage. Tout était fait dans les règles, y compris la police était prévenue.
Alors on disait pas de morale sur Vice TV, quand même le titre complet de cette série c'est un peu moral, en tout cas ça finit bien. Le titre c'est Voyou, des histoires qui finissent bien. C'est plus accrocheur que les histoires qui finissent mal ou c'est vous vouliez contrebalancer?
Oui, tout à fait, on voulait contrebalancer, enfin pas de moraline, après qu'il y ait un peu de, qu'il y ait des beaux messages, des messages de transmission et d'espoir, ça oui, mais c'est pas la moraline qui nous écrase et qui vient de l'empire du bien comme on le disait.
Voilà, ce qui vous intéresse c'est la transformation, le parcours de vie.
Oui, la transmission, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin dans les médias, ce rôle de transmission qui est vraiment attendu par nos publics, notamment la jeunesse, il y a une grande attente là-dessus et on essaye modestement à notre rôle de transmettre.
Alors à l'opposé de Voyou, deux nouveaux programmes maintenant, deux programmes beaucoup plus introspectifs. Le premier, c'est la quatrième saison inédite d'une émission déjà bien installée sur Vice TV. Il ne faut pas la confondre avec En Thérapie, la série qui vient de commencer sur Arte. Comment s'appelle votre émission à vous, Romain Marcilli?
Nous, elle s'appelle Thérapie, qui est l'adaptation française de Thérapiste. Et il se trouve que la série remarquable d'Arte a un peu piqué le nom. Ouais. Mais nous, elle s'appelle Thérapie, ça fait la quatrième saison. Donc, vous voyez, on n'a pas attendu. L'enjeu de la santé mentale, il est capital chez Vice. C'est un sillon qu'on creuse, une problématique qu'on creuse depuis plusieurs années.
Alors vous avez donné le contexte, la santé mentale, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le principe de l'émission?
Donc le principe de l'émission, ce sont des personnalités diverses et variées. Dans les premières saisons des rappeurs, là on a vraiment élargi, qui rencontrent, qui se livrent, qui dévoilent beaucoup de choses de leur vie et de leur parcours à un psychanalyste. Ouais. C'est ça la différence par rapport à des émissions qu'il y a pu avoir comme dans le passé, comme Le Divan. Là on est vraiment dans l'authenticité, c'est-à-dire c'est Fernando de Amorim, qui est un psychanalyste très réputé sur la place de Paris, qui accueille des personnalités diverses et variées. Franck Gastambide, Pierre Ménès, Suzanne, Ladji Doucouré, Clara Morgan, Fusati, Hichon, je livre les noms, Guillaume, ouais. Sanchez, j'ai livré les noms de cette nouvelle saison, donc vraiment un casting très varié, et c'est permettre de découvrir des personnes charismatiques sous un angle de la santé mentale qu'on ne connaît pas toujours.
Vous parlez de la chanteuse Suzanne, elle a les yeux embués à la fin de l'émission, elle résume bien le principe de cette émission justement.
Ça m'a un peu coûté de parler de tout ça, mais en même temps je pense que ça fait du bien aussi parfois. Ça faisait longtemps que je m'étais pas laissé aller un peu à... Je suis toujours dans l'ultra-contrôle. Bah du coup, là, l'ultra-contrôle, là, on n'y est plus du tout. Mais c'est bien. Ça fait du bien aussi, parfois, de se montrer nu. Sans toujours un costume, sans toujours devoir enfiler quelque chose, du make-up, du ci, du ça. Être naturel.
Elle n'est pas nue, évidemment, mais pourquoi ne pas avoir poussé la chose jusqu'au bout, ne pas avoir allongé vos invités sur un divan? Là, ils sont assis.
Oui, parce qu'on ne veut pas forcément mettre en scène. Tous les psychanalystes ne reçoivent pas sur un divan, donc on la joue de manière sobre, sans en faire des tonnes. Là, effectivement, elle raconte dans cette émission toutes les souffrances pour arriver là où elle est arrivée. C'est intéressant.
Mais aussi, vous faites de la télévision, donc de l'image. C'était peut-être aussi pour vous différencier de l'émission Le Divan, présentée, créée par Henri Chapier, puis reprise par Marc-Olivier Fogiel.
Tout à fait. Et sauf que voilà, ces deux personnalités n'étaient pas psychanalystes. Là, c'est vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on ne surjoue pas, c'est des émissions de qualité bien sûr, mais là on est vraiment sur un angle beaucoup plus précis et pointu en termes d'entretien et non pas d'interview.
Et vous n'aviez pas une troisième nouveauté à annoncer? On marque une pause. Romain Marcilli, le directeur général de Vice TV France, dans un instant, à tout de suite.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Romain Marcilli, c'est le directeur général de Vice TV France. Vous êtes venu nous annoncer trois nouveautés. Voici la troisième et la dernière, là encore, exclue dans Culture Média, une toute nouvelle émission.
Oui, toute nouvelle édition, un format original Vice dont on est fier, qui s'appelle Mirror.
Mirror comme un miroir.
Mirror comme un miroir, exactement. L'idée était de confronter des personnalités très diverses, on va y revenir, à leurs archives. Alors pas les archives forcément les plus connues, mais des archives qui ne sont jamais anecdotiques, mais qui en disent beaucoup de leur parcours, des ressorts de leur engagement. C'est ça un peu le fil rouge de l'émission. Pourquoi vous êtes-vous engagé? Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette œuvre, qu'elle soit politique, artistique ou autre?
Et il faut raconter aussi le dispositif visuel.
Un dispositif visuel qui, je pense, est assez impressionnant et assez esthétique. Nous, c'est très important. On essaie de raconter le monde comme il est, mais toujours garder un style et un esthétisme. C'est une question de respect à la fois pour les invités, mais encore plus pour nos téléspectateurs. Donc, l'émission s'est tournée dans un hangar. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et il y avait un mur d'archives auquel l'invité faisait face, avec une question qui était posée sans voix off, donc d'une manière ultra simple, ultra authentique, ultra brute.
Ouais.
L'invité lit la question, il répond, ça lui permet vraiment un parcours, vraiment une réponse très très immersive. Et tout le dispositif est très immersif, aussi bien pour l'invité que pour tous les spectateurs. On se sent englobé dans un mur d'images, ouais. Et l'invité au milieu.
Oui, c'est pas seulement comme la boîte à questions toute blanche de Canal, c'est beaucoup plus.
Visuellement, ça, c'est pas dégueu. Donc on voit vraiment un beau dispositif, et puis surtout pris dans un mur d'images, un invité face à leurs œuvres, face aux premières archives. Et parfois, c'est très souvent le cas même, ils connaissaient les images, mais ça faisait depuis très longtemps qu'ils ne les avaient pas vues. Et parfois, ils ne les avaient même jamais vues. Donc, par exemple, dans le casting, peut-être qu'on va en parler.
Mais... Je vais parler du casting, oui. Je voudrais qu'on entende un extrait.
Avec plaisir.
On a parlé de la mise en image, on va dire un mot du fond. L'invité peut dire alors des choses qu'il a rarement dites, voire jamais. C'est le cas, par exemple, de l'avocat Richard Malka. Vous lui montrez l'interview qu'il avait donnée à la fin du procès des attentats de janvier 2015, après sa plaidoirie. Voici ce qu'il dit, Richard Malka.
J'ai jamais... pu regarder cette intervention en fait à la fin de ma plaidoirie. J'ai du mal à me regarder parce que là je suis en lock, je suis épuisé physiquement, psychologiquement, moralement. C'est un procès qui est pour moi remué évidemment beaucoup de choses. La pression était colossale. Je suis arrivé en béquille parce que mon hernie discale s'est réveillée. Et puis, c'est juste après ma plaidoirie que moi, j'ai mal vécu. Je sais qu'elle a été, elle a eu un retentissement et j'ai fini par me convaincre que ça ne devait pas être si mal. Mais pour moi, c'est un des pires souvenirs de ma carrière. J'ai eu l'impression, pendant une heure et quart, de passer complètement à côté des choses, de l'audience, j'ai eu l'impression de foirer, quoi.
C'est évidemment le procès Charlie Hypercacher. J'ai eu l'impression de foirer, dit Richard Malka. Je n'avais jamais entendu l'avocat dire ces mots. C'est ce que vous cherchez dans cette émission Mirror, des confidences inédites de vos invités.
Tout à fait, sans aucun voyeurisme. C'est une histoire de comprendre comment ils ont vécu ces moments, comment ils ont nourri leur parcours. Et c'est un moment très fort de l'émission, effectivement, celui que vous venez de mentionner.
9 numéros sont prévus pour Mirror pour cette saison. Qui sont les invités, en plus de Richard Malka, évidemment?
Alors nous avons eu le plaisir de recevoir François Hollande, une émission très intéressante, il revient sur les ressorts de son engagement politique, il voit des images assez anciennes de la Corrèze à son mandat récent avec les images sous la pluie, il revient beaucoup sur le temps, etc.
Ça va être ma question, vous lui passez aussi des images désagréables?
Tout à fait, bien
pas
sûr.
Pas seulement des images à sa
noire. Non, c'est, le but n'est pas, c'est pas Michel Drucker, le but c'est aussi de confronter parfois l'invité à certaines de ses contradictions, ou à certaines de ses échecs, ou à certaines de ses difficultés.
Pardonnez-moi, je ne l'ai pas vu, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qu'il dit quand il est dégoulinant sous la pluie, cette image désastreuse qui a fait le tour du monde.
Bon, faut voir l'émission.
Non,
je vais pas vous spoiler, c'est le 24 février à 21h. Non, il raconte qu'il fallait se mouiller, que lui, ces images-là sur l'île de Sein, ce fameux discours qu'on lui montre, il disait que pour lui, c'était totalement réfléchi, même si beaucoup de ses conseils avaient dit « prends un parapluie », il avait dit « j'y vais parce qu'il fallait se mouiller
voilà, ». Au sens propre du terme. Qui d'autre?
Alors nous avons un très beau double numéro, vraiment magnifique, très poétique, avec Oxmo Puccino, qui se livre, je pense, comme assez rarement, voire comme jamais. Nous avons Caroline Fourest, Delphine Horviller, un numéro que j'apprécie énormément aussi, avec Bertrand Burgala, qui vraiment raconte de manière très touchante les ressorts de sa création, ses inspirations, des Beach Boys aux Kinks, ouais. Et puis son rapport au sujet. On a la chanteuse Iseu, on a le streamer Sardoche, aussi très intéressant, 1 million de followers sur Twitch, donc ouais. Une base énorme, mais des gens qui ne sont pas forcément connus de toutes les audiences. Donc on essaye d'avoir un plateau très, très varié.
Sardoche, c'est un joueur qui diffuse en direct ses parties. Oui. C'est aussi pour ça que vous l'avez pris, pour agréger les communautés et amener du monde chez vous.
Oui, agréger les audiences, essayer de mélanger un peu les genres.
Est-ce que quelqu'un comme François Hollande, qu'on ne peut pas comparer à ses invités tout aussi prestigieux qu'il soit, qui a été président de la République du 5e pays du monde, est-ce qu'il a fixé des conditions pour venir?
Non. C'était très, très, très libre. Il y a eu une relation de confiance. Donc il n'y a pas eu de problème par rapport à ça.
Ce sont deux émissions d'introspection, ces nouvelles émissions Mirror Therapy, dispositif très intimiste. Vous n'avez pas peur que ça effraie les jeunes dans ce contexte de situation d'enfermement?
Non, justement, je pensais aussi dans l'air du temps. On a été beaucoup face à nous-mêmes pendant ces périodes de confinement. On a également fait un très beau documentaire qui s'appelle Census, où on a filmé les jeunes pendant le confinement en novembre, décembre, partout en France, Nice, Chartres, Paris, Bordeaux, Lille, qui est un très beau documentaire qui est toujours disponible en replay sur MyCanal, où on essaie justement de comprendre leur rapport au confinement, leur besoin de liberté, parce que la jeunesse, c'est, on ne va pas la résumer en un mot, elle est très diverse, très polarisée, très parfois archi. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui reviennent souvent. La volonté de liberté, la volonté de responsabilité, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. Et cette période-là a permis cette introspection. Et finalement, ces deux programmes-là, bien que très différents, Mirror et Thérapie, vont dans ce sens, et dans le sens de comprendre les invités et leurs messages. Ainsi.
Est-ce que vous avez cassé votre tirelire pour ces trois émissions ? Combien ça coûte des émissions comme celle-ci ?
Non, ne parlons pas d'argent.
Est-ce que ça se compare avec le budget d'une émission télé ? Ou est-ce que vous avez un modèle économique totalement différent?
Tout à fait. C'est tout à fait de la télé, donc on est à 100% là-dessus. Ben, c'est une dimension digitale, le site que tout le monde connaît, ouais. Mais la déclinaison de l'identité de la marque à la télé met des moyens et les exigences, et je pense que ça se verra aussi à l'image de la télé et toutes ces images-là, qu'on est distribué en exclusivité en France par Canal, et lorsqu'une grande partie de notre audience est en replay sur MyCanal, on doit avoir des critères d'exigence très, très élevés, forme et fond.
On peut vous voir sur le site ou sur MyCanal, et nulle part ailleurs, si je puis me permettre, c'est une galaxie, Vice TV. Est-ce que ces formats, vous allez les exporter sur les autres Vice TV, aux États-Unis, au Canada et aussi à d'autres chaînes?
Alors Mirror, Cocorico, c'est un format français, donc je pense que lorsque les Anglais et les Américains, dans les tout prochains jours, parce qu'on vient de finir le montage, vont voir ça, je crois qu'ils vont pouvoir le reprendre, et on a déjà eu beaucoup de marques d'intérêt là-dessus, voilà. Thérapie, c'est plutôt nous qui avons pris un format américain, donc les idées circulent dans les deux sens, ce qui est positif.
D'accord, merci beaucoup Romain Marcilli.
Merci à vous.
Vous êtes le directeur général de Vice TV France, chaîne, comme vous l'avez dit, archipélisée. Voyou, le premier épisode, c'est ce soir à 22h, Mirror dans deux semaines, à partir du 24 février, ce sera à 20h10, et puis le même horaire pour la saison 4 de Thérapie. J'ai dit 20h10, c'est 21h10, et puis le même horaire pour la saison 4 de Thérapie, il faudra attendre un petit peu plus, le lancement le 15 mars. Merci encore Romain Marcilli. Dans un instant, le chef 3...